Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour une deuxième session au public fidèle et passionné rassemblé ici sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon pour un masque et la plume consacré à la 73e édition du Festival d'Avignon qui ferme ses portes dans deux jours, du moins pour le IN, puisque le OFF se termine qu'à la fin du mois de juillet, avec les critiques Fabienne Pascot de Télérama qui en une semaine a gardé, bravo, ses bracelets en or, avec Carmel Elio du quotidien du médecin qui peut intervenir en cas de besoin ou de malaise, avec Jacques Nerson de l'Obs, Gilles Costaz de Politis et Vincent Josse de France Inter. Il sera notamment question ce soir de Blanche-Neige, de Homère comme la semaine dernière, mais aussi de Virgile, de la fameuse maison de thé pékinoise et d'un spectacle flamand au titre imprononçable qui veut dire en tout cas livre, yen, euro, dollar. Autant de spectacles qui pour la plupart vont tourner dans toute la France à partir de septembre et donc je le précise une nouvelle fois puisque nos auditeurs n'ont pas tous la chance, le privilège d'avoir suivi ce festival d'Avignon. Et on commence avec la maison de thé. D'après Lao Tse, c'est un spectacle du chinois Meng Jinghui qui, lui, ne va pas tourner à travers la France et qui a été donné à l'Opéra Confluence du 9 au 20 juillet et à l'entrée duquel il était précisé que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, même si, en même temps, il est conseillé à partir de 14 ans. C'est bizarre. Une maison de thé pékinoise symbolisée par une immense roue métallique, roue qui tourne sur trois époques et trois générations au gré des revers et des fortunes de la société chinoise du XXe siècle sur fond de musique électro-rock jouée en live, musique qu'aime particulièrement Jacques Nerson. C'est la version radicale de ce classique du théâtre chinois publié en 1957. Je rappelle que l'auteur Lao Tse s'est suicidé en 1966 au pic de la révolution culturelle qu'il a enfermé, persécuté et donc poussé au pire. Cette maison de thé, Jacques, est-ce que vous y êtes entré ?
J'ai été très étonné parce que c'est une pièce que je connaissais puisqu'on l'a vue en 1980. La Comédie Française avait invité à l'Odéon parce qu'à l'époque, elle dirigeait elle avait l'Odéon comme seconde salle. Et donc, on avait déjà vu cette pièce. Mais c'était une mise en scène très réaliste et c'est une pièce un peu brechtienne où on voit le propriétaire d'une maison de thé essayer effectivement de la faire survivre à travers les vicissitudes de l'histoire.
Mais là, sur trois générations.
Voilà, mais là, on a affaire à un metteur en scène qu'on nous présente comme d'avant-garde, mais avant-garde chinoise. Et je me disais, mais à quoi ça peut ressembler ? Ben, ça ressemble à rien. C'est une espèce de supplice chinois, pour le coup. C'est affreusement long, braillard. Et alors, ça vide surtout. La pièce a été très réécrite, très, très retouchée, et salement même. Et ça la vide complètement de son sens. Ça part dans toutes les directions et on comprend que le gouvernement chinois, qui n'est pas connu pour sa libéralité, laisse ce metteur en scène circuler dans le monde parce qu'effectivement, ça devient complètement inoffensif. De toute façon, je crois que les gens s'ennuient et puis c'est tout. C'est affreux, affreux, affreux.
Fabienne ne l'a pas vu, Gilles ?
Je sais pas du tout, d'accord.
Je comptais sur toi là-dessus.
Mais cela dit, c'est une étrange expérience. Je crois qu'on n'a jamais vu ça, quoi. Un spectacle.
Un spectacle qui ressemble, aussi, on en a vu d'autres.
Non, mais qui ressemble à ça, j'en connais pas. C'est-à-dire qu'on est dans cette très belle salle de l'Opéra Confluence Et on se trouve face à 20 acteurs chinois qui hurlent dans un décor de tubulure ahurissant. Il y a des tuyaux partout. Il y a une roue qui tourne et les acteurs parfois se tournent avec la roue jusqu'en haut du cintre. C'est absolument incroyable. Alors, c'est vrai que c'est d'un très, très mauvais goût. Mais pendant une heure, je me sentais complètement découragé par ce spectacle assez vulgaire, mal écrit, bien que la traduction des sous-titres soient très bien faits. Je trouve que les sous-titres sont presque...
Mais on ne peut pas les lire tellement il y en a.
Alors, ben moi, je n'ai pas eu de problème avec les sous-titres. Je les ai trouvés très bien.
Je propose qu'on se cotise pour acheter un hamster agile et il verra une roue tourner comme ça et il sera
heureux.
Vous tombez mal, Jacques, parce que j'aime trop les animaux pour faire tourner un hamster dans une cage.
Et Gilles adore les roues, surtout des vélos.
Je veux dire que l'expérience que j'ai vécue, je parle pas finalement tellement de la pièce, mais elle est assez troublante parce que pendant une heure, je voyais des spectateurs partir et je me disais, ils ont de la chance. Moi, je suis sérieux, je pars pas, mais eux, ils peuvent partir. Et puis.
Dans la
deuxième heure, mais j'ai été fasciné par cette espèce d'hystérie galopante, cette santé incroyable de ces acteurs qui continuent toujours à hurler. Ça hurle tout le temps et c'est sonorisé. Donc
mais
ça
qu'est-ce qu'ils t'ont raconté
ils m'ont raconté des choses terribles sur le pouvoir, sur le.
Comprend rien.
Et on s'aperçoit. Il y a des choses. Ce qui est vraiment effarant dans l'histoire de la Chine, c'est que les gens mouraient de faim. Et ils vendaient leurs enfants, et ça on nous le dit beaucoup. Donc il y a cet aspect émouvant, et puis il y a ce côté rock comme ça qui veut imiter l'Amérique,
j'aime bien le rock,
l'Europe.
Cette année j'ai remarqué.
T'as remarqué les citations de Rodrigo Garcia, j'espère. Bon.
Oui,
ça imite beaucoup de choses. Ça veut être très 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 européen, tout en étant très très chinois. C'est sexuel mais pudique. Enfin, c'est passionnant parce que ça ressemble à rien. Et quand on dit que ça ressemble à rien, ça peut être un défaut. Mais moi, je dois dire que je crois que je verrai jamais une chose comme ça dans ma vie. Et donc, je suis content d'avoir vu cette
Tu es content que ce soit fait.
J'appelle ça un pudding chinois parce qu'on additionne des tas de choses.
Est-ce qu'il vaut mieux un supplice chinois ou un pudding chinois ?
Enfin, s'il disait la vérité, il dirait qu'on est paumé parce qu'on n'arrive pas à lire les surtitres.
Il y en a trop, aucun problème.
Donc on lit et... Mais non, arrête, tu mens. Un ami m'a réoffert le texte et j'ai relu ce texte merveilleux que j'avais vu jouer comme Jacques à l'Odéon.
Alors qu'est-ce que
qu'on
ça
a revu aussi, je crois, à Bobigny ou je ne sais plus quoi, dans des formes classiques du théâtre chinois. C'est un ouvrage essentiel. Lao Tse, on ne sait pas d'ailleurs s'il s'est suicidé ou s'il a été tué.
C'est pas officiel, mais enfin tout le monde pense qu'il a quand même mis fin à ses jours.
Bref.
C'est
une œuvre exceptionnelle. C'est une œuvre magnifique. Mais là, nous, aujourd'hui, en France, nous n'avons pas les clés pour cette modernité chinoise. Donc, on ne sait pas calculer ce qui est de l'ordre du ratage ou de l'ordre de la force. On ne sait pas si les acteurs sont des acteurs très célèbres. Et on ne comprend pas pourquoi ils en rajoutent comme ça, pourquoi ils vocifèrent. Tout ça a certainement du sens, mais nous, on est complètement à la porte, on n'a pas les armes. Et c'est pour ça que je regrette quand même que ce spectacle ait été invité à Avignon, parce que même le plus savant des spécialistes de la Chine d'aujourd'hui, à mon avis, est complètement paumé face à un ouvrage pareil, monté de cette façon-là.
Vincent. Oui, j'entendais quelqu'un dire « vous êtes dur », je trouve que les critiques sont trop dures sur ce spectacle parce que ces Chinois prennent énormément de risques avec cette mise en scène et avec le fait de venir ici nous présenter ce spectacle.
Mais s'ils ont été autorisés, je vous rappelle que Clôture de l'amour de Rambert, pour que le présenter en Chine, il faut qu'il coupe. Alors c'est de l'art officiel qu'on voit là, n'oubliez pas.
Il le fait volontiers d'ailleurs.
Oui.
Pascal Rambert le fait de couper. Il en parle très bien. Il accepte pour les Chinois de couper, pas dans la cour d'honneur.
C'est peut-être mieux en Chine alors, Pascal Rambert.
C'est mieux en Chine.
Alors Vincent, la maison de thé.
Moi, personne
Vincent.
Ne m'a offert le livre, donc je ne sais pas ce que j'ai vu. Et c'est très, très frustrant de rester face à la grande muraille, si je puis dire, se cogner face à cette muraille, puisque je ne sais pas ce que j'ai vu. Je n'ai pas eu de clé, je n'ai pas eu de code. Et je ne sais pas si ce sont de bons comédiens, à part le fait qu'ils hurlent pendant une heure. Je n'ai que ça à dire sur le spectacle. D'abord, ils hurlent et après, il se passe d'autres choses. Ils jettent des chaises.
Quand même, ils bougent beaucoup.
Mais c'est une inconnue absolue, pour le fond comme pour la forme. J'entendais uniquement le rire d'Olivier Py, qui était à côté de moi, qui avait l'air de tout comprendre et de trouver beaucoup d'humour dans la mise en scène, justement. Et je l'enviais beaucoup.
Tu veux dire qu'il découvrait le spectacle ce soir-là ou
Peut-être, après tout.
Ah bon ?
Peut-être,
oui,
peut-être.
Qu'il a vu.
Il a une équipe.
C'est une opération diplomatique, certainement. Ah,
j'ai remarqué qu'il il applaudissait à la fin d'une façon tout à fait particulière, c'est avec ça, les mains, Olivier Py. Il applaudissait avec les mains au-dessus de la tête.
Ça veut dire qu'il aime.
On voit bien qu'il applaudissait.
Quand on aime, on fait ça, Jacques.
Je suppose. Ou alors c'était un nouveau chapeau.
D'abord, je ne reçois pas la télé.
Vous lui faites, là.
Allez, la maison de thé d'après Lao Tse, je n'ai pas de tournée, je vous le disais, a proposé, pas de réaction sur ce spectacle, si une réaction, le micro vient vers vous.
Oui, Jérôme Garcin, je crois qu'il faut absolument renforcer le club de Gilles Costas parce que les autres m'ont l'air bien là. LAS, hein, ils
n'aiment
plus.
On n'est pas du tout là, au contraire, on est là, et là.
Et il laisse même pas parler les gens, quoi. Il coupe la parole sans arrêt avec un côté acariâtre qui est difficile à supporter, je trouve.
Je revendique.
Alors. Moi, je peux parler de la maison de thé puisque je ne l'ai pas vue. Mais je vais en dire
du
bien.
Vous pourriez être traité comme un masque à la plume.
Je vais en dire du bien, oui, absolument. Eh bien, on va renforcer Gilles Costas, alors, parce qu'il a beaucoup de mérite dans ce petit monde.
Vous êtes de sa famille,
donc,
non?
Donc, mon épouse, pas du tout. Mon épouse l'a vue. Elle est venue enchantée. Elle m'a dit, c'est un bordel innommable, j'y retourne. Et bien sûr, elle m'a proposé de m'emmener.
Allez, livre, yen, euro, dollar, qui s'est donné jusqu'au 14 juillet à la Chartreuse de Villeneuve, les Avignons. C'est un spectacle d'Alexander Devrient. J'espère que je le prononce bien. Le directeur artistique de la compagnie flamande Otteren Gud, je pense que j'ai bien fait, invité pour la première fois au Festival d'Avignon qui se place pour le bonheur de Jacques à la lisière du théâtre et de la performance avec des créations, je cite, incisives, imprévisibles et surtout interactives. Ici, autour de tables de jeu, des jetons sont remis aux spectateurs, investissez, revendez, surenchérissez, repoussez les limites en cherchant à reproduire les lois du marché. Cette compagnie donc flamande a fait le pari d'introduire 84 spectateurs par séance, 7 par table, dans le petit monde des 1% les plus riches banquiers et traders. La devise du spectacle étant signée William Black, le commissaire du département d'épargne et d'emprunt de Californie, la meilleure façon de voler une banque est d'en posséder une. Est-ce que vous avez, Fabienne, avec tous vos bracelets en or, tenté l'expérience de livre yen, euro et dollar ?
Exactement, j'ai tenté l'expérience et malgré mes bracelets en or, je ne suis pas une femme d'argent, donc je n'ai rien compris. Donc je n'ai rien compris.
Sérieusement,
à ce qui se passait.
Rien.
Je suis restée totalement à côté. Pourtant, j'étais pleine de bonne volonté. Alors, on commence...
Vous avez pris les jetons, quand même.
Non, il faut d'abord donner de l'argent. Donc, moi, je me dis, merde, je vais peut-être pas retrouver mon argent. Donc, j'avais pas vraiment envie d'en donner.
Combien tu as donné, d'ailleurs?
Donc,
combien tu as mis?
2,50 €.
Oh,
la mise minimale est déjà...
Télérama
était totalement déjugé. Très petit bras, mais heureusement que j'ai pas mis plus parce que petit bras en or. Non, mais j'ai pas du tout compris. Alors certes, c'est intéressant, sûrement rentrer dans le monde financier. Mais alors là,
c'est
je me pose
faux.
Les frontières de la limite du théâtre. Parce que là, on nous fait jouer, c'est un jeu de rôle qu'on accorde aux spectateurs. Moi, je voyais à ma table, il y avait des jeunes, des moins jeunes, qui jouaient férocement, qui se prenaient au jeu, qui investissaient, qui payaient leurs impôts, qui achetaient d'autres banques. Moi, je suis passée totalement à côté et je me demande à quoi ça sert, ce genre de spectacle.
Jacques, combien vous avez mis ?
Moi, j'ai mis 20 euros.
Oh, il est riche.
Mais non, mais de toute façon, on les retrouve.
On a les moyens dans la presse de
l'eau. On les récupère à la fin.
D'abord, non, on nous les rend à la fin.
C'était le maximum.
Oui,
mais de toute façon, on nous les rend. Ça, c'est de donner de l'argent au début, n'a pas d'intérêt. Enfin bon, mais si vous voulez, c'est une espèce de mauvais Monopoly, parce que les règles du Monopoly sont beaucoup plus drôles. Et on joue effectivement contre la banque. Donc, on est à une espèce de table de casino. Et on sait très bien que... un quart d'heure ou 20 minutes avant la fin, bah, ils vont déclencher une espèce de panique artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'ils veulent nous dire...
Il y a la musique en plus,
ils veulent nous dire attention.
En plus, on va nous dire que le monde financier
alors, voilà,
est mauvais.
Tout à coup, nos obligations perdent de la valeur. Alors les gens essaient de les revendre un peu avec une panique plus ou moins jouée. Ça n'apporte rien. C'est vraiment le monde financier pour les nuls, quoi.
Bah, je suis même pas nulle, alors.
Vincent,
le moment même est très charmant, très joyeux. On se fait des copains.
Et vous observez les autres.
Ouais, moi, j'ai mis 20 euros aussi. J'étais très fier de moi.
Ben ouais.
Et puis, j'ai gagné à la fin 26 millions. Mais toi, je vois que tu as gagné plus.
Et moi, 32 32 millions, s'il vous plaît.
Vous voyez, ça va aller
pour l'instant, Armelle Hélio montre ce qu'elle a gagné au public d'Avignon,
papier,
puisque
je nous met un petit papier.
Je te rappelle, tu es à la radio.
Parce qu'on joue à gagner de l'argent, à en dépenser, voilà, à être une banque capitaliste, etc. Et c'est vrai qu'à la fin, alors c'est très long ces deux heures quand même. Au bout de 20 minutes, on a un peu compris.
2h20 même.
Sans d'ailleurs, et Fabienne a raison de le dire, sans comprendre vraiment le pourquoi du théâtre et le pourquoi de ce spectacle-là, à part nous culpabiliser là aussi, hein, on aime bien nous culpabiliser en ce moment. En nous disant qu'on est cupide. Et c'est vrai qu'on avait tendance à surenchérir, à acheter, à vendre, à prendre des obligations. À toi, tu as été contre d'entrée de jeu. Moi, j'ai joué le jeu avec mes camarades. Et après, je me suis dit, mais où est le théâtre? Voilà.
Armelle.
À quoi bon, et où est le théâtre?
Le théâtre, c'est un petit théâtre sur la table, quoi, avec les sept
c'est
personnes.
C'est assez limité.
C'est nous qui en sommes les acteurs.
Un croupier
alors.
Qui est plutôt d'ailleurs une croupière un peu sadique. Très dur, qui vous oblige à payer vos impôts. Hein. Mais tout se joue finalement au dé. On lance des dés et selon le chiffre qu'on fait au dé, exactement.
On gagne
c'est
beaucoup
ça qui
si
marche.
On fait 6.
Donc en fait, c'est vrai qu'on n'apprend rien sur les mécanismes de la banque. On n'apprend rien, mais on ne passe pas un mauvais moment.
Non.
Et surtout, on analyse les psychologies. Les psychologies des uns des autres. Bah, écoute, c'est du plaisir.
Oui, c'est joyeux.
Gamin, c'est joyeux. Et alors moi, j'ai regretté parce que je voulais interviewer les croupières à la fin, leur demander comment elles avaient été recrutées, formées, parce qu'évidemment, ce sont des comédiens et des comédiennes, et elles veulent pas, elles restent très dures en disant « Madame, je n'ai rien à vous dire ».
Elles restent dans leur rôle.
Enfin, j'ai gagné 32 millions d'euros en ayant
mais non, en plus, moi, je suis en train de voir ton ticket, t'as gagné 320 millions.
320,
tu vois. Ah oui, 320 millions. Hein.
Tu vois,
là,
voyez,
tu pourras nous offrir un verre après.
Chose, alors.
Tu peux racheter la Mirande.
Je peux racheter la Mirande, ouais.
L'hôtel d'Avignon.
J'arrive pas à comprendre pourquoi Gilles n'est pas allé voir ce spectacle. T'es vaincre ou quoi?
Il
n'aime pas perdre.
J'avais pas été mis au courant, j'ai pas vu que vous demandiez.
Ah bah c'est sur la liste pour
voir ça. Tu lis pas mes programmes. Livre, yen, euro, dollar de la compagnie flamande Otteren Gund va se donner au théâtre de Namur, évidemment, en novembre. Ça sera aussi à Lyon fin novembre et en décembre. Et puis encore, ça va tourner en Belgique. Et ailleurs, une réaction, oui, dans ce public du Festival d'Avignon. Bonjour.
Je trouve qu'il y a un élément du spectacle qui ressort très bien, mais le mot n'a pas été cité. C'est le mot ludique. Et je trouve ça très bien aussi, un spectacle qui est ludique. Quand on est un enfant et qu'on a un jouet, je crois que c'est un poème de Baudelaire, je crois. Quand on est un enfant et qu'on a un jouet, on a envie de casser. On a envie de casser pour voir comment ça marche. C'est ce que ce spectacle propose de faire. Et pareil avec le théâtre, en fait, il propose de casser le théâtre pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur et le reconstruire après peut-être, je trouve ça bien.
Mais vous avez en tout cas raison de préciser que c'est le seul spectacle interactif que nous aurons vu au Festival d'Avignon. Encore une intervention, le micro est à vous.
Oui, moi j'ai trouvé très intéressant ce spectacle, en particulier parce qu'on ressent très bien l'attrait insidieux du capitalisme financier. C'est-à-dire qu'on peut être absolument anticapitaliste et puis on se dit on est à Avignon, bon on va participer à ce dispositif et on se laisse prendre au jeu, on se laisse complètement happer et effectivement les vies qu'il y a derrière cette espèce de système boursier deviennent abstraites. Et ça je trouve ça très intéressant de nous mettre dans la peau du trader. C'est pas si manichéen, c'est assez fin.
Merci pour toutes ces interventions. Il n'y en a pas d'autres sur ce spectacle, non? Dans le spectacle dont on parlait la semaine dernière, d'ailleurs, de Pascal Rambert, c'est vrai que moi, si au nom de l'interactivité, on m'avait proposé de monter le cheval, j'aurais été absolument ravi. On a parlé justement dimanche dernier de l'Odyssée, mais version Christiane Jataï. Voici maintenant celle de Blandine Savetier qui a été proposée jusqu'à hier soir, 20 juillet, sous les oliviers du Jardin Secano avec Aline Bellibi, Hélène Benali, Neladam Mohamedi, Yuko Oshima, Julie Pilot, Jordan Resgui, Suleyman Silla et, je cite, des citoyens amateurs de théâtre, Blandine Savetier, concentrant sa lecture du poème antique sur le voyage, qu'elle considère comme un désir toujours renouvelé d'aventure qui transforme les êtres. Elle l'a présenté exactement comme à la manière d'une série, en 13 épisodes d'une cinquantaine de minutes, avec donc des citoyens d'Avignon. Ça, Gilles, vous l'avez vu.
Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce feuilleton qui n'est pas vraiment sidérant d'originalité. Ça me rappelle beaucoup l'époque de ce qu'on appelait la littérature orale, l'époque du développement du conte, de l'école de Chevilly-Larue, enfin du centre d'études orales de Bruno de La Salle.
Oh ben Bruno de La Salle, il sait dire des textes.
On psalmodiait les choses pendant des heures. Moi, j'aime beaucoup, surtout quand ça chante et quand il y a de la musique. quand il y a aussi les gens d'Avignon qui viennent jouer des rôles minuscules. C'est agréable, mais c'est sans doute pas l'un des meilleurs feuilletons du festival parce qu'il n'est pas profondément original.
Vous avez l'air en colère, Armel ?
Bah oui, parce que, je sais pas, il a eu de la chance, parce que moi, je suis allée plusieurs fois essayer de trouver des moments de grâce dans ce montage. Et en fait, je suis tombée sur des moments on s'ennuie, où des gens, c'est pas de leur faute, annonnent des textes très beaux, dans des belles traductions, mais ça ne fait pas un feuilleton jubilatoire comme tous les autres feuilletons qui ont précédé cette odyssée étaient les années précédentes, que ce soit Thomas Joly ou Christiane Taubira, on s'amusait, on partageait quelque chose de jubilatoire. Là, on est... c'est ennuyeux.
Vincent ? Oui, c'est un peu plat, c'est vrai que c'est une proposition modeste et sans doute trop modeste. Mais tout n'est pas nul. Je trouve que le comédien qui joue le personnage d'Ulysse est pas mauvais. Je trouve que ce moment où il traverse dans une barque évoque d'une manière assez délicate les migrants et ce qu'on peut voir tous les jours dans les journaux. Et j'aime bien l'idée qu'on fasse travailler des jeunes issus de la diversité, puisque c'est ça le propre du programme Premier Acte. On permet à des comédiens de diversité extrêmement variée d'être sur scène et peut-être ensuite d'aller sur les scènes nationales et faire en sorte que les acteurs soient un peu moins blancs sur scène en France.
Fabienne, cette odyssée version...
Je ne l'ai pas vue.
Ah, vous ne l'avez pas vue ?
Eh non.
Jacques ?
Moi, ça me pose une question. C'est un spectacle gratuit. C'est important, il n'y en a pas beaucoup
dans le
festival. Certaines places coûtent cher et là, c'est accessible à tous. Mais justement, est-ce qu'un spectacle gratuit doit être un spectacle au rabais ? C'est là la question. Et moi, ce que je vois là, c'est des gens qui ne savent pas jouer, qui ne savent pas dire des textes, qui font de leur mieux, et peut-être qu'ils éprouvent grand plaisir à le faire, et c'est peut-être très bien pour eux. Mais la question, c'est est-ce que c'est une bonne chose de montrer à des spectateurs venus, à des festivaliers, de leur faire entendre un texte si mal dit, hurlé dans des micros, avec une mise en... Enfin, on ne peut même pas appeler ça une mise en scène, d'une mise en place d'une platitude, mais incroyable.
Ils ne sont pas tous mauvais, hein, Jacques.
Ils sont presque tous mauvais. Les comédiens professionnels sont à peine meilleurs que les amateurs. Moi, vraiment, je trouve ça un peu scandaleux. Je crois que, si vous voulez, c'est comme quand vous avez un copain qui est médecin et qui vous ausculte gratuitement, il ne doit pas faire le truc à moitié et ne regarder que la moitié du corps sous prétexte que c'est gratuit. Il doit faire son métier jusqu'au bout correctement. Et là, ce n'est pas professionnel, ce qu'on montre. Ce n'est pas normal.
L'Odyssée de Blandine Savetier, ce spectacle gratuit du Festival d'Avignon. Est-ce qu'il y a des réactions ici ? Si, une réaction. Le micro est à vous, monsieur.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Je voudrais m'inscrire en faux contre ce qui vient d'être dit contre le spectacle de l'Odyssée. Ce n'est pas parce que c'est gratuit et ce n'est pas au rabais. J'ai été très agréablement surpris que des non-professionnels puissent jouer à quelques exceptions près avec une si bonne diction. Que la mise en scène soit tout à fait honnête, qu'il y ait vraiment une recherche de plaire à un large public et que comparé à des acteurs professionnels qui ont joué comme dans des spectacles subventionnés de bas niveau comme Architecture ou Nous l'Europe, on est là des comédiens non professionnels qui nous donnent quelque chose de réellement agréable à voir où l'on passe un bon moment pour tout le monde. Merci.
Merci de votre défense et illustration de ce spectacle qui va se trouver en septembre et octobre à Strasbourg. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. J'imagine qu'on ne va pas faire aller les spectateurs d'Avignon à Strasbourg. Donc on va utiliser les Strasbourgeois peut-être pour jouer. Et en octobre, ce sera à la Villette, donc à Paris. Voyage encore avec Sous d'autres cieux. Ça, vous l'avez vu, Fabienne ?
Oui, je l'ai vu.
De Kevin Kes, d'après l'Énéide de Virgile, qui s'est donné au Cloître des Carmes, un spectacle de Maëlle Poésie qui s'attache à la fuite d'aînés après l'incendie de Troie. Traqué par la colère de Junon, il se met en quête d'une terre hospitalière où fonder une nouvelle cité. Spectacle, là encore, sur l'exil et les apatrides, deux thèmes qui reviennent tout au long de ce festival où le passé ressurgit dans le présent et où se mêlent, toujours pour le bonheur de Jacques, la danse et la vidéo. Fabienne.
Alors moi, c'est un spectacle que j'ai bien aimé. C'est pas Homère, ce coup-ci, c'est Virgile, donc. donc la poésie latine. Ce qui est peut-être un peu en dessous, c'est l'adaptation qu'en fait Kevin Kais, qui est assez plate, je trouve. Mais sinon, d'un point de vue spectaculaire, je trouve qu'elle a trouvé des mailles poésie. Elle a su trouver un mouvement épique. Elle a su nous faire partager cette altérité qui baignait l'Antiquité. Il y a des dieux, des personnages qui s'expriment dans divers langues. C'est une sorte de tour de Babel où elle nous invite, encore une fois, mais sans que ça pèse des tonnes, sans que ça soit didactique et trop engagé, à écouter l'autre, à écouter la souffrance de l'autre via ses réfugiés. Elle sait aussi parler de la passion amoureuse d'Énée pour Didon, dans une sorte de chaos informel, clair-obscur, avec des comédiens qui, comme vous l'avez dit, chantent ou dansent. Je trouve que c'est pour moi un spectacle très très réussi, plein de bruit et de fureur, et j'ai bien marché à ça.
Jacques ?
Entièrement d'accord avec Fabienne. C'est un des bons moments du festival pour moi. Le texte est découpé et réparti entre 8 comédiens, et dit avec une grande simplicité. C'est un spectacle très léger d'une certaine manière, et on voyage avec Aîné, on voyage avec ses compagnons, et on n'est pas déçu du voyage, vraiment. C'est merveilleux, je trouve.
Vincent.
Ah ben, je vous trouve sympa avec Maëlle Poésie.
Bah, ça pourquoi pas,
ça arrive. Ah, oui, non, mais c'est sympa. Bien, vous avez raison d'être sympathique parfois. Mais là, certes, le spectacle est limpide, mais il est un peu plat, quoi. Je trouve que ça justement, il n'y a pas.
Peut-être dans le texte, mais pas dans la mise en scène.
Ben si, aussi. Puis les acteurs ne sont pas très bons. On aimerait. Jupiter est formidable. Harrison Arevalo, on l'avait découvert.
Mais Junon aussi.
On l'avait découvert chez Christophe Honoré. Il jouait un collard. Et il était éblouissant. Et là, ben, il est le seul à exister, je trouve, sur scène. Et c'est lui qui aurait dû incarner Aîné. Il aurait emporté tout ça avec plus de vigueur et de flamme. Il en manque beaucoup dans le spectacle. Et je trouve qu'il n'y a qu'une seule idée de mise en scène. C'est que quand il se met en mouvement, Aîné et les siens, quand ils se mettent en mouvement, eh bien, ils se mettent à danser, justement. Et le mouvement, c'est de la danse, mais c'est à peu près toujours la même danse.
C'est magnifique.
On voit certains acteurs fatigués parce que ça n'arrête pas de danser dès qu'il y a un mouvement. Il y a un unique point de vue sur le plan de la mise en scène qui est de mettre des acteurs en état de danse, et c'est
de
tout.
Mouvement, c'est
et donc, on en a, mais des dizaines
mais
et des dizaines. Et on se lasse très vite.
On éprouve leur fatigue, effectivement. On a l'impression de voyager avec eux. C'est superbe.
Armelle.
Oui, franchement, j'ai été séduite par ce travail. Je suis juste gênée par une petite coquetterie, cette présence de tas de langues, le farsi, l'espagnol. Donc on lit des traductions tout le temps. C'est un peu inutile. Ça aurait été en français directement. Ça aurait été beaucoup plus accessible. C'est beau. Moi, je trouvais que c'était bien joué. C'est fluide. Et ça restitue bien Virgile, je trouve. Absolument. La beauté de Virgile.
Gilles.
En préambule, je voudrais dire que je trouve quand même un peu facile et presque fallacieux d'utiliser l'Odyssée et l'Énéide pour nous dire on vous parle des migrants. Les migrants, c'est une tragédie qui n'a rien à voir avec ça. Donc, en fait, c'est une tragédie de héros de grands personnages mythologiques. Alors, cela dit, sur ce spectacle... sous d'autres
c'est
cieux.
Bien de s'appuyer à des grands textes en même temps. Gilles.
Ouais, mais c'est un peu tranquille, quoi. Je veux dire, non.
Ça veut dire que le problème est éternel depuis l'Antiquité. C'est aussi fort,
même,
ça.
Non, ouais, mais peut-être.
C'est pas le même. C'est
peut-être
sûr.
Qu'il faut l'affronter de façon plus directe.
Gilles a raison. Mais ça me c'est difficile de le dire, mais là je trouve qu'il a raison. Effectivement.
Ça vous arrache la gueule.
Ça m'arrache la gueule.
Moi, je suis pas d'accord. Passer par de grands poètes pour raconter aujourd'hui, c'est bien.
Mais pas un migrant comme les migrants d'aujourd'hui.
Ulysse
a erré sur les eaux pendant 10 ans.
Mais une errance n'est pas forcément l'errance des migrants chassés de leur pays par la pauvreté, par la guerre, par toutes sortes de choses. Ça n'a rien à voir.
Comme
et là, je suis d'accord avec Gilles. Par ailleurs, je défends le spectacle.
Bon, Jacques, je tiens compte qu'on a un accord sur 40 désaccords. Très bien. Ouais. Et pour ce qui est donc du spectacle de Maëlle Poésie, moi je l'ai vu à Dijon au Festival Théâtre en mai, donc il a peut-être évolué depuis.
Oui, il va se donner Dijon aussi oui. en novembre et en décembre.
Et les sentiments que j'avais eus au mois de mai, c'est que c'était mieux que le précédent de Maëlle Poésie, c'est-à-dire qu'elle fait des progrès, que malgré tout, elle a une espèce de systématisme. Ces choses sont un peu raides, quoi. C'est appuyé, quoi. Là, on fait ci, on fait ça. Alors là, essayer de mettre un petit peu de comédie musicale à l'américaine, mais paf, ça fait 2-3 touches et puis pas plus, quoi. Donc, je pense qu'elle est encore bien jeune, mais c'est vrai que ce spectacle a une certaine séduction.
Et ce spectacle de Maëlle Poésie, donc Sous d'autres cieux, va se donner, je le disais, en novembre et décembre à Dijon, et puis ce sera ensuite à Belfort, et à partir du début de l'année prochaine, vous pourrez l'apprécier à Antibes, à Château-Vallon, à Bayonne, à Rouen, à Marseille. Grande tournée donc pour ce spectacle et pour nos auditeurs qui sont dans toutes ces villes. On parlait dimanche dernier d'un conte de Grimm réinterprété, réinventé et mis en scène avec succès ici à Avignon par Olivier Py. Voici donc Blanche-Neige, l'histoire d'un prince de Marie Dillasserre, mise en scène par Michel Raskin. C'est à la Chapelle des Pénitents Blancs et c'est un spectacle de 1 heure pour tout public à partir de 8 ans qui s'est donné ici jusqu'au 12 juillet et qui commence bien après la fin du conte des frères Grimm puisque on est après le mariage du prince et de Blanche-Neige quand la paresse s'installe dans le couple et que le royaume des Péris et que, imaginez, les 7 nains sont désormais 101. Armel.
C'est un spectacle très, très cruel, et très dur.
Très radical.
Très radical. Je ne connais pas bien l'univers de Marie Dillasserre qui a écrit ce texte pour Michel Raskin. C'est un spectacle très cohérent, très bien joué. Et moi, j'ai surtout apprécié le travail de représentation, le travail de scénographie, le travail sur les objets d'une femme de génie qui s'appelle Claire d'Ancoine et qui a une compagnie qu'on a parfois vue à Avignon, parfois de l'autre côté du Rhône, à Villeneuve, et qui a inventé des objets, qui fait apparaître les nains, qui a inventé cette espèce de castellet, qui fait apparaître une lune absolument magique. Tout ça ajoute au charme du spectacle qui est quand même... J'ai trouvé, je sais bien que les enfants aime avoir peur, aime voir des choses dures. Mais là, c'est ce vieux prince et cette vieille Blanche-Neige, ils sont quand même bien déprimants.
Sans la musique d'Olivier Py. Jacques.
Oui, ils sont effectivement déprimants, ils sont vieux, mais vous oubliez de dire quand même une chose qui me paraît capitale, c'est qu'effectivement, le genre, c'est-à-dire que Blanche-Neige est jouée par un homme et prince par une femme. Alors,
ça vous dérange?
Je ne sais, non, ça ne me dérange pas, on voit ça souvent, c'est même d'une certaine manière très à la mode.
Souvent, non.
Mais si, c'est très à la mode.
Oui, c'est très à la mode.
Et il y a derrière ce spectacle une volonté d'aborder le problème des genres qui est tellement à la mode. La question que je. Bon, alors, quand j'ai vu le spectacle, il y avait peut-être 2 enfants ou 3 enfants dans la salle, c'est tout. Et c'était dans la journée, hein, c'était pas le soir. Donc, ça me paraît pas très grave, mais je pense quand même que les parents devraient être un petit peu prévenus. On va inciter les enfants à pas à changer
Jacques.
De sexe, mais à choisir leur partenaire, etc.
Jacques.
Écoutez, je pense
mais
que
non,
c'est la
c'est
liberté.
Ça, prends, c'est la,
laissez-moi juste terminer. Oui. C'est la liberté, je crois, des parents de choisir le type d'éducation qu'ils veulent. Et je pense que quand on fait un spectacle dit tout public pour enfants, il faudrait quand même que les gens soient prévenus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir, ce spectacle. Mais je dis qu'il faut y aller en connaissance de cause. Et c'est pour ça que j'en parle.
Mais Jacques, depuis Shakespeare ou le théâtre, depuis le Shakespeare ou théâtre No, c'est des hommes qui jouent des rôles de femmes et
non,
ça ne choque personne.
Pas,
c'est pas ça qu'il dit, c'est pas du tout
pas
ça que dit
le
Jacques.
Le spectacle aborde constamment et de façon un peu insistante la question du genre.
Mais c'est pas un mal si on montre aux petites filles qu'elles ont une part d'homme et aux petits garçons qu'ils ont une part de femme. Tout ça,
je pense que c'est aux parents de décider. Je pense que c'est un petit peu impératif.
Ça dépasse les parents.
Ça paraît un petit peu impératif.
En tout cas, moi, c'est un spectacle. C'est dans la lignée de ce qu'a fait Joël Pomera avec Cendrillon. C'est revisiter les contes.
Ah non, rien à voir.
Ah non, c'est moins beau que Pomera. Moi, je trouve ça aussi insolent que Pomera. Et moi, je trouve que montrer à des enfants des amours qui vieillissent, qui se pervertissent, c'est pas mal non plus. Ce vieux prince qui n'aime plus Blanche-Neige. Blanche-Neige
qui crache et qui vomit, etc. Enfin,
bon, qu'on a fait dormir. Elle a tellement dormi, Blanche-Neige. Le sommeil, c'est vraiment une question que se posent les enfants. Elle est devenue géante, donc elle est 4 fois plus grande que lui. Ça pose le problème des relations des hommes et des femmes avec infiniment de pertinence et d'insolence.
Ah bon, vous trouvez que c'est pertinent?
Ah oui, c'est drôle, c'est drôle. Les 7 nains qui sont devenus 101, comme les 101 dalmatiens dans la forêt, dans un monde qui se délite, où le prince a tellement dépensé pour plaire à Blanche-Neige, qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien. Le royaume est complètement perdu. L'écologie doit s'y intéresser parce qu'il n'y a
plus de campagne, il n'y a plus de montagne, les rivières sont asséchées, il n'y a plus de poissons. Ça pose quantité de problèmes dans un décor.
Ça s'appelle le roi Sommer, ce que vous racontez, ça s'appelle le roi Sommer, ça a déjà été écrit.
Ça fait penser aussi au roi Sommer de UNESCO, ben et oui. C'est pas mal. Ben c'est pas mal.
Autant je voyais plus facilement les enfants de 9 ans voir le spectacle d'Olivier Pie, là c'est peut-être à 8 ans, c'est peut-être un peu tôt. Là je parle de la compréhension du spectacle.
Mais le monde est terrible.
Donc on va pas les déprimer. Vous avez raison, il faut déprimer les enfants.
Mais il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est comme ça qu'ils seront forts.
Oui, retirons-leur leur joie de vivre.
Vincent.
Mais non, la joie de vivre vient après. Mais...
C'est très joyeux.
Je
trouve que tu oublies cette part farcesque de cette œuvre qui est remarquable. Pour moi, c'est aussi bon qu'Olivier Pie dans L'amour vainqueur. D'ailleurs, il y a une esthétique assez proche entre les rouges, les noirs et puis le désespoir.
Ce
sont des contes et ils dynamitent les contes. Par exemple, Blanche-Neige dit « Oh, ben, je regrette, j'aurais dû accepter les avances de Podane. » Et le vieux prince qui lui dit « Mais qu'est-ce qu'elle a à foutre dans cette histoire, Podane ?» Donc voilà,
c'est plein d'histoires. Ça suffit à te réjouir.
Mais bien sûr qu'il y a un plaisir immédiat de spectateur. Et puis les enfants, ça les fait rire de voir Blanche-Neige jouer par un Suisse de 2 mètres de haut et qui dit « Moi, j'ai besoin de monter comme ça, prendre un peu l'air parce que j'étouffe avec toi. » Je suis certain que les enfants sont morts de rire, moi.
Ah ben, ils n'étaient pas morts de rire le soir. Enfin,
il y en avait deux.
Le jour où j'y étais, ben, ils n'étaient pas morts de rire. Donc là, tu prétends qu'ils s'amusent, mais tu n'en sais rien.
Mais vous non plus.
Je suis certain qu'ils ne sont pas choqués,
les
enfants.
Ah ben si, je les ai
vus. Jacques Nerzon, je crois que vous ne lisez pas les programmes avant d'entrer dans les spectacles.
Oui, sûrement.
Parce qu'il y avait une très jolie formule, je trouve, il y avait écrit « Pour adultes à partir de 8 ans ». Et ça, c'est formidable. Et le spectacle, c'est exactement ça. Comme vous avez très bien parlé, donc tout est, pas vous, Nerzon, mais les autres. Tout est à l'envers. Les sexes sont inversés, l'histoire est inversée. Et c'est toujours complètement inventif, parce que c'est vrai que les objets fonctionnent avec aussi bien que les comédiens, qui sont extraordinaires. Enfin, Marie Guittier est extraordinaire, et les autres aussi. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Vincent. Je trouve que c'est le grand éclat de rire du festival, avec L'amour vainqueur.
Un rire noir.
Oui, mais on est mort de rire. Et d'ailleurs, quand je rencontre des gens dans la rue qui m'en parlent, et ils sont heureux de ce spectacle. Nerzon, on y était le même jour. Eh bien, les enfants que j'étais à côté de moi, ils étaient aux anges.
C'était des grands enfants, probablement. Alors.
Non. Ils aiment cet humour.
Ils avaient des cheveux blancs, ils aimaient beaucoup.
Mais vous étiez au fond de la chapelle, Nerzon. Avec moi, j'étais devant, avec mes enfants.
Nerzon est toujours au fond de la chapelle.
Il faut le savoir. J'aime mes enfants.
Bon, cette version transgenre de Blanche-Neige, signée Michel Raskin pour la mise en scène, va se retrouver à Valence et à Dunkerque en octobre. Ce sera ensuite en novembre à Marseille et puis ensuite en décembre à Saint-Étienne, à Sète. Et la tournée va continuer. Est-ce qu'il y a des réactions peut-être sur ce spectacle ici à Avignon ? Non, oui, une intervention. Le micro vient vers vous. Madame, bonsoir.
Vous n'avez pas parlé de Souillon.
Un autre personnage.
Le technicien qui est comédien aussi à la fois. Ouais. Hein. Voilà. Et ça, c'est très inventif.
Inventif, mais c'est toujours la servante. J'étais étonnée que vous ne parliez pas de ce personnage qui est quand même un personnage important. Secondaire, mais important.
Oui, donc vous êtes étonnée qu'on ne parle pas d'une servante. Souillon.
Souillon qui... C'est quand même, elle est toujours la servante, mécanicien et tout, mais...
Mais c'est un homme.
Oui.
Alors c'est bien.
Là, je suis pas...
C'est vrai.
Je ne suis pas sûr que les auditeurs qui nous écoutent pour l'instant, dans toute la France et à l'étranger, comprennent exactement ce qu'on est en train de raconter. Bon, au moins on peut nous réécouter en podcast. Allez, on passe à Point de non-retour, quai de scène de la franco-roumaine Alexandra Badea, qui a été présentée au théâtre Benoît XII du 5 au 11 juillet, avec Amina Gina, Alexandra Badea, Madalina Constantin, Kader Lassina Touré, Sophie Verbeck, quai de scène. C'est donc le deuxième volet de la trilogie Point de non-retour. Une femme part à la recherche des traces de son héritage familial inconnu. Des morceaux d'histoire vont surgir. Il est question ici du massacre des Algériens le 17 octobre 1961 à Paris. Tout est politique dans la vie, même l'amour, dit Alexandra Badea. On aime comme on pense le monde. Gilles.
Oui, Alexandra Badea est un auteur franco-roumain, une roumaine qui écrit en français, qui a fait des débuts très remarquables avec des pièces très étranges où il y avait pratiquement plus de personnages, mais tout passait par des SMS, des emails qui parlaient de la domination, des commerçants qui dirigent le monde, des politiques qui parlent de choses cachées. Et ça donnait un théâtre extrêmement surprenant. Là, moi je dis Wawad qui dirige la colline, qui lui a demandé de faire un cycle sur les erreurs de l'État français, les énormités, les monstruosités qu'a pu faire la France au niveau de l'État. C'est son deuxième épisode. J'ai pas vu le premier à la colline, je vois celui-là. Et je ne retrouve pas du tout Alexandra Badea tel que je l'aimais. C'est-à-dire que je trouve que c'est un théâtre qui fonctionne sur la psychologie ou la psychanalyse, qui est construit comme en décalage. Et au lieu de nous faire un véritable dossier sur les choses, on est dans une construction romanesque et psychique qui est assez appuyée. Donc je pense que l'outil qu'elle est en train de créer est absolument à revoir.
Fabienne.
Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, cette manière de voir comment la grande histoire peut influer dans nos vies au quotidien, dans la vie de nos familles, et comment même dans les familles, les générations suivantes peuvent porter, même sans le savoir, le traumatisme des générations passées. Et ça, je trouve ça très intéressant. Là, ça raconte comment une jeune femme qui va mal, qui va voir un psychanalyste, eh bien, elle se rend compte que son grand-père n'était pas celui qu'elle pensait et était un Algérien, que ses grands-parents venaient d'Algérie. Il y avait sa grand-mère pied-noir avait aimé un arabe, avait eu son père, et ses parents n'avaient jamais accepté cet arabe. Donc de toute cette descendance, de ce traumatisme chez les pieds noirs, de leur relation avec l'Algérie, elle arrive à nous faire quelque chose d'éminemment concret. Au milieu de la scène se passe l'histoire de la grand-mère amoureuse de ce jeune Algérien, et sur le plateau, c'est le traumatisme de la jeune fille, ce qu'elle vit et ce qu'elle comprend de sa grand-mère et comment elle va pouvoir s'en sortir, se sauver, réparer le passé. Donc c'est vrai que c'est teinté de psychanalyse. Ce que je dis est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, ça raconte plein de choses. Ça raconte plein de choses de nos traumatismes, de la société française, et je trouve la démarche très intéressante.
Jacques.
Et c'est bien joué.
Ben, ça raconte plein de choses, mais justement, ça en raconte probablement trop. Et pour moi,
mais vous n'êtes jamais content s'il n'y a pas assez de choses. Vous n'êtes pas content trop. Vous n'êtes pas content.
Mais là, ça me paraît typique d'une mauvaise pièce.
Ça raconte bien l'histoire.
Non, je trouve pas du tout. Je la trouve assez ratée, cette pièce. Et je trouve que ce n'est qu'un salmigondi qui s'est vite effacé de ma mémoire, d'ailleurs, comme un mauvais souvenir. Vous parliez des traumatismes sur scène, mais il y avait aussi des traumatismes dans la salle. J'étais traumatisé.
Pas le soir où j'y étais, moi.
Oui, mais moi, j'étais traumatisé, je peux vous dire.
À ce point-là ?
Parce que je trouve ça horriblement ennuyeux, bavard, confus.
Mais pas ennuyeux, ça raconte une histoire terriblement concrète.
Mais ça la raconte mal, Fabienne.
Bah moi, je me suis laissé prendre. Moi, je me suis laissé emporter.
Je t'envie parce que je suis comme Jacques, j'ai souffert. Et dès les débuts, elle arrive sur scène, l'auteur, metteur en scène. Elle a son ordinateur et elle commence à écrire son histoire qui est en direct affichée, qui s'écrit sur un écran. Il n'y a pas une ligne, il n'y a pas deux lignes. Il y en a 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20. Et on se dit, mon Dieu, mais ça va être ça pendant tout le spectacle.
Mais ça,
on croirait que c'est un roman en plusieurs volumes.
Au moins un feuillet.
Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a un flow, un flux de paroles. Et le sujet est passionnant en soi. Tu as raison quand tu l'énonces, mais on reste simplement au niveau du sujet qui est mal traité, qui est mal mis en scène, qui est mal joué.
Elle raconte une histoire intime liée à la grande histoire de la France. Oui, mais ça marche.
Il y a le projet et puis il y a la réalité du spectacle, et le spectacle ne t'embarque pas, et à aucun moment tu n'es ému par ce que tu vois, alors que tu devrais l'être. Donc,
je suis ému par l'histoire d'amour de la grand-mère.
Ah, ben, écoute, je t'envie encore une fois, Fabienne.
Bah, oui.
Armelle.
Elle a repris exactement le même dispositif d'écriture et même presque scéniquement le même dispositif que pour le premier volet que j'ai vu cet hiver au Théâtre de la Colline. Donc
alors,
là, on avance.
Petite parenthèse, Théâtre de la Colline va se donner du 7 novembre au 1er décembre. Donc, pour ceux qui ne sont pas à Avignon.
Alors, elle découvre un petit peu. Elle est, comme l'a expliqué Gilles, elle écrit en français, mais elle découvre certains événements. Ce 17 octobre, elle nous le sert comme si on n'en avait jamais entendu parler. Et je trouve que la construction romanesque, il y a un effort de construction romanesque, reste un petit peu plat. La mise en scène est plate. Comme l'a expliqué Fabienne, il y a une espèce d'arrière-fond derrière un tulle où se passe l'histoire de la grand-mère. Et puis devant, nous avons la jeune femme et son psychanalyste.
Ah oui, il y a beaucoup de paroles.
La construction est très monotone, c'est vrai.
Oui, c'est très monotone.
Devant, derrière, devant, derrière,
avant,
ça n'arrête pas.
Un après. Oui, mais le 17 octobre 1961, on n'en parle pas tant que ça.
Monsieur, oui, on en parle mal.
Il y a eu des livres, il y a eu des journaux, il y a eu des reportages, il y a eu du public qui s'intéresse à l'histoire de France. S'ils connaissent ce qui s'est passé.
Donne-lui un livre, parce que c'est pas avec ça qu'il se rendra.
S'il vous plaît, pas tous ensemble.
Bon, ben c'est tout, voilà.
Point de non-retour. De non-retour. Ketsen, Alexandra, Badea, pas de réaction. Si, sur ce spectacle, deux réactions. Le micro vient vers vous.
Je trouve que le spectacle n'est pas parfait. Il y a plein de choses qui m'ont pas tout à fait plu. Mais j'ai quand même été extrêmement ému par le spectacle et à la fin du spectacle. Et notamment, j'ai trouvé très très précieux qu'on donne un nom aux victimes et qu'à un moment, la comédienne égrène le nom des victimes algériennes qui ont été jetées dans la scène par la police française. Et ça, je trouve que donner ça à voir un public sur une scène de théâtre, c'est absolument fabuleux.
Et une intervention en haut des gradins. Ici, à Avignon, monsieur.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'ai pas été traumatisé, mais autant le. Je trouvais que c'était important, comme ça a été dit, que ce 17 octobre, effectivement, 61 soit rappelé, parce que moi, je considère qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui s'est passé.
Objectivement, vous avez raison.
Et Fabienne a raison. Je trouvais que le sujet et la démarche étaient intéressantes.
On ne le connaît pas assez.
Mais elle a ramené tellement ça, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que en fait, c'est parti au départ du fait qu'elle a demandé la nationalité française et qu'au moment où elle a demandé la nationalité française, on lui a dit qu'elle devait assumer les bons côtés et les mauvais côtés du pays dans lequel elle demandait la nationalité. Et je pense que là, pour le coup, on le cherche un peu. Là. Et on a l'impression qu'elle, à travers ça, nous contraint à rentrer dans une psychothérapie de groupe. Et on ressort de là, mais épuisé. Épuisé comme spectateur. Parce qu'on se dit à un certain moment, mais c'est incroyable, elle nous a guidés dans un... Moi, je n'ai pas envie de prendre la responsabilité de ce que Papon a fait à cette période-là. Je veux dire, je me sens autant que je peux considérer effectivement que je... doit assumer en partie ce que mon pays a pu faire dans la colonisation, mais les erreurs d'hommes d'État ou autres de l'époque, j'ai pas envie de les assumer. Et moi, rentrer dans une psychanalyse de groupe où on va me dire « Allez, frappe-toi, flagelle-toi, parce que y en a qui ont fait des conneries, il faut le dire. Alors par contre, effectivement, je trouve que c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'était important que puissent être égrenés tous les noms. Et en plus, on remarquera quand même que dans ces noms-là, la majorité des gens, il y a une femme et il y a un qui n'a pas un nom de consonance arabe. Et ça pose quand même quelques questions dans ce qui a pu se passer.
Merci pour votre intervention. La preuve qu'aussi le masque et la plume, parfois, peut être une psychanalyse de groupe. Alors, c'est Point de non-retour, Ketsen d'Alexandra Badea. Et c'est novembre-décembre au Théâtre de la Colline à Paris. Allez, je me tourne, comme la semaine dernière, vers le public ici rassemblé sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon. Je vois que plein de mains déjà se lèvent pour nous conseiller ici des spectacles qui sont dans le off et qui vont durer jusqu'à la toute fin de ce mois de juillet. Le micro vient vers vous.
Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée au Théâtre des Barriques à 21h55. Donc un excellent jouissif musé et une belle énergie des interprètes et metteurs-metteuses en scène.
Merci pour ce conseil. Peut-être de ce côté-là, et puis après on va aller vers le centre. Oui, allez, vous avez le micro, je vous laisse parler.
Moi j'ai pu voir un spectacle qui s'appelle Costa le Rouge à Présence Pasteur, qui est mis en scène par une compagnie du Nord qui s'appelle La Compagnie dans l'Arbre, et qui est un spectacle magnifique autour des valeurs familiales et d'un lien très fort entre un grand-père et son petit-fils, et qui pose la question de la construction d'un futur adolescent au sein d'une famille grâce à la figure importante qu'est son grand-père. Donc je vous le conseille.
Merci. Et allez, encore deux interventions ici. Et au bout de la cour, qu'il n'y ait pas d'injustice, vous avez le micro entre les mains, parlez.
Les filles aux mains jaunes, donc Théâtre Actuel, qui est un spectacle formidable sur des femmes qui ont travaillé pour les munitions pendant la guerre de 14 et qui ont développé ainsi le féminisme. Quatre actrices formidables. Une mise en scène formidable et un texte très intéressant.
J'aime beaucoup tous ces enthousiasmes ici à Avignon. Allez, monsieur.
Bonsoir. Coup de cœur pour un spectacle qui s'appelle « Le cœur fume encore ». Un spectacle qui joue donc au 11 Gilgamesh. Spectacle sur la guerre d'Algérie qui nous fait voyager donc d'hier à aujourd'hui, qui nous fait voyager donc d'Alger à Paris en passant par Bruxelles. une belle distribution d'acteurs, un plateau qui est très très bien exploité et beaucoup beaucoup de poésie.
Merci pour cette intervention. Allez, rapidement, vous citez simplement pour terminer cette émission maintenant les critiques, Jacques.
Alors, Le fantôme d'Aziadé, c'est le premier roman de Pierre Loti qui est lu magnifiquement par Xavier Gallet au théâtre Avignon-Reine Blanche, c'est à 11h. Et puis Marie des Poules, une pièce de Savoisien, Gérard Savoisien, avec la sublime Béatrice Agenin. Et ça, c'est au théâtre Buffon à 17h25.
Fabienne.
Deux monologues, deux manières de vouloir être comédienne, deux monologues formidables. Le Chant des possibles, écrit et interprété par Élise Noirot, au théâtre Transversal à 18h50. Et Tais-toi, et avec Eva Rami, mise en scène par Marc Ernotte à la Condition des Soies à 11h15. C'est drôle et tragique.
Armel.
Philippe Girard et John Arnold à Présence Pasteur à 18h15, dans Le Crépuscule d'après Malraux. Et une femme seule que je ne connaissais pas, qui est absolument remarquable, Laura Wolf. On retourne au Train Bleu, mais à 13h45, dans Disparu, un texte et une mise en scène de Cédric Aurin. C'est tout à fait remarquable, c'est sur une disparition
oui,
volontaire.
Mais on va juste garder les titres parce que l'émission se termine, Vincent.
Le Train Bleu, on y va aussi pour une jeune comédienne qui pour moi est vraiment la révélation.
Ah ben
de
c'est la scène qui monte.
Oui, c'est oui. La scène qui monte, on en parle beaucoup, on y va beaucoup. Entre autres, c'est Anna Bougreau, jeune comédienne qui a écrit un texte qui s'intitule « Joie » où elle démarre la pièce sur un enterrement. Elle a perdu pour la première fois de sa vie une proche et elle voit l'effet, elle constate l'effet finalement de vitalité que cette mort intime procure en elle. C'est à la fois une jeune première, à mon avis, elle aura sa place aux Français, à la Comédie française rapidement. C'est aussi un clown, très belle et grande actrice déjà, Anna Bougreau. C'est à 16h40 au Théâtre du Train Bleu, ça s'appelle « Joie ».
Non, Anna voilà. Bougreau. Et enfin, Gilles.
Alors, toujours au Train Bleu, des accès de Hakim Zeris, un jeune homme de la banlieue qui raconte comment il a été radicalisé, comment il n'est plus radicalisé, passionnant. Et puis une grande chanteuse qui raconte toute sa vie en chanson, qui s'appelle Caroline Loeb, et qui chante « Bye bye tristesse à la Luna ».
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Armel Elio, Fabienne Pascot, Jacques Nerson, Gilles Costaz et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Aujourd'hui, sur le site Louis Pasteur de l'Université d'Avignon, il y avait à la technique, je les remercie, Christophe Goudin, Olivia Branger, Nicolas Depagraf et Alain Pied. La réalisation était signée Xavier Pistugia. Dans une semaine, on parlera de littérature. La semaine suivante, on parlera de cinéma. À dimanche prochain, tout l'été, sur France Inter, évidemment.